Vous écoutez
RMC.
Bon réveil, bon début de dimanche. RMC 9h.
RMC, la matinale week-end.
Toute l'info avec Solène Gardré. Bonjour Solène.
Bonjour Mathieu, bonjour Peggy, bonjour à tous. Sarah El Haïry tacle Marion Maréchal Le Pen après ses propos homophobes sur la GPA, la gestation pour autrui. La ministre chargée de l'enfance était notre invitée à 8h40. Des peines réduites pour les trafiquants de drogue repentis ou encore la création d'un parquet contre le crime organisé. Le gouvernement annonce de nouvelles mesures pour lutter contre le trafic de drogue. Puis en foot, les Parisiennes jouent leur match retour ce soir contre l'OL et malgré leur défaite au match aller, le PSG compte bien s'offrir une finale européenne.
Ce sont des propos homophobes. Voilà les mots de Sarah El Haïry, la ministre chargée de l'enfance, qui était donc notre invitée il y a quelques minutes.
Oui, la ministre a réagi à des critiques de la candidate Reconquête aux européennes sur la gestation pour autrui. Critique formulée cette semaine contre la famille d'un couturier français dont les enfants sont nés de GPA. La GPA est aujourd'hui interdite en France, mais pourtant une réalité dans le monde, a rappelé la ministre.
Ce sont des propos homophobes puisqu'ils ciblent et nient une situation familiale. D'une certaine manière, ils stigmatisent une partie des familles françaises. Il y a déjà des procédures qui ont été lancées et donc on attend les réponses de la justice. Ils ont été portés par des associations qui luttent contre l'homophobie. La justice tranchera. Mais très sincèrement, oui, s'il y a sanction à avoir, il faut qu'elle ait lieu pour une raison toute simple. Elle met en danger des enfants.
Sarah El Haïry qui dit être favorable à un débat national sur la gestation pour autrui. Autre annonce ce dimanche, celle du ministre de la Justice pour lutter contre le crime organisé. Éric Dupond-Moretti annonce par exemple la création d'un parquet spécial pour le crime organisé, mais aussi une nouvelle infraction pour association de malfaiteurs dans ce domaine. Et surtout, la création d'un statut de repenti pour les ex-trafiquants de drogue. Expliquez-nous Anna Jaujard.
Et oui, objectif, briser l'omerta, le silence des complices qui parfois ne donnent pas d'informations par peur des représailles pour eux. Pour leur famille aussi, des témoignages pourtant précieux parce qu'un complice qui parle, à la fin, c'est tout un réseau qui peut tomber. Bon, concrètement, il y a déjà une loi en France censée protéger ces repentis, mais dans les faits, elle est beaucoup trop restrictive. En 20 ans, elle n'a été appliquée qu'une vingtaine de fois. Alors, pour la rendre plus efficace, le garde des Sceaux veut s'inspirer du modèle italien. La peine du repenti sera réduite, sa protection améliorée et il lui sera possible de changer d'état civil pour ne pas risquer des représailles. Tout cela à condition, bien sûr, de faire des déclarations sincères et déterminantes à la justice. Mais attention, ce statut pourra être retiré immédiatement en cas de fausse déclaration ou si le repenti commet une nouvelle infraction.
Les agriculteurs restent méfiants après les annonces hier de Gabriel Attal.
14 mesures complémentaires ont été annoncées. Elles s'ajoutent aux 62 engagements déjà présentés ces derniers mois à l'issue des blocages. Parmi ces nouvelles mesures, la réforme des retraites agricoles, des aides au financement des exploitations et pour les départements frappés par les intempéries. Pour les syndicats majoritaires, ces annonces vont dans le bon sens, mais elles ne vont pas clore le chapitre des blocages pour autant, Anna Huot.
Le gouvernement promettait la paix sociale. Mais au micro de BFM TV, les syndicats agricoles, eux, restent plus nuancés.
Est-ce que vous dites que le mouvement est terminé?
Mais non, on ne peut pas dire ça.
Absolument pas.
Aujourd'hui, le mouvement, il n'a pas été suspendu.
Seul le président des jeunes agriculteurs assure que l'époque des blocages est révolue. Mais pour Jérôme Bayle, éleveur bovin en Haute-Garonne, figure du mouvement de contestation. Il manque d'autres mesures d'urgence, notamment sur le GNR, le gazole non routier utilisé pour les engins agricoles.
Le GNR continue à augmenter et les agriculteurs, pour eux, c'est vraiment une grosse manne financière. Dans les campagnes, la tension commence à remonter par rapport à ça.
Il faut aussi des réformes plus structurelles pour Jérôme Vol, vice-président de la FNSEA.
Il y aura besoin d'une nouvelle loi, notamment sur la relation commerciale, qui permet de dégager des revenus pour les agriculteurs. Ce que nous voulons en tant qu'agriculteurs, c'est vivre de notre métier et de nos produits.
Lors du Salon de l'agriculture en février dernier, Emmanuel Macron avait promis aux agriculteurs de les rencontrer. Une rencontre qui devrait finalement avoir lieu la semaine prochaine.
On vous en a déjà parlé plusieurs fois sur RMC, la ligne de train Paris-Clermont, ligne vétuste, souvent pointée pour ses retards impressionnants. Eh bien, ces voyageurs vont encore devoir attendre. On leur avait promis de nouveaux trains modernes, les Oxygènes, livrés en 2025. Ils pourraient prendre 2 ans de retard à cause de difficultés techniques, Johanna Chabas.
Après le Covid, la guerre en Ukraine et les difficultés d'approvisionnement, ce sont maintenant les essais de ce nouveau train qui expliquent le retard de livraison. Le constructeur espagnol a repéré en février dernier des problèmes de moteur et de frein qu'il faut à présent résoudre. C'est une humiliation de plus faite aux Auvergnats, selon le président de région Laurent invoquée. Stéphanie Picard, porte-parole du collectif des usagers du train Clermont-Paris, est plutôt fataliste.
C'est pas possible, encore une fois, enfin, on est maudit sur cette ligne, c'est pénible. Cela dit, je préfère qu'ils repèrent les défaillances techniques maintenant, plutôt que quand il y aura 400 personnes dans le train. Mais qui nous dit qu'il n'y aura pas d'autres insuffisances repérées sur d'autres points techniques dans quelques mois, dans quelques jours, on ne sait pas. Donc ça engendre quand même vraiment une grande période, un peu d'incertitude, je dirais.
Elle demande le gel des tarifs de cette ligne jusqu'en 2028. Ils sont déjà bloqués pour cette année. Le collectif d'usagers réclame également des travaux sur la voie afin que le Paris-Clermont se fasse en 2h30 au lieu de plus de 3h aujourd'hui.
RMC 9h05, on en vient à cette situation inédite chez nos voisins espagnols.
Oui, le Premier ministre Pedro Sanchez a suspendu ses activités depuis mercredi. Une annonce choc après l'annonce de l'ouverture d'une enquête contre sa femme pour corruption et trafic d'influence. Une enquête ouverte suite à la plainte d'une association proche de l'extrême droite. Le Premier ministre au pouvoir depuis 2018 pourrait même démissionner. Mais il reste très soutenu, Inès Zegloul, à l'image de ses manifestations de partisans hier dans les rues de Madrid.
Pedro Sanchez ne t'en va pas. Comme un cri de détresse de la part de ses 12 500 sympathisants inondant les rues de la capitale. Une nuée de pancartes, de drapeaux jaunes et rouges. Tu n'es pas seul, lui rappellent les socialistes qui accusent l'extrême droite espagnole de vouloir discréditer l'homme à la tête du gouvernement, voire de le pousser intentionnellement à la démission.
Ce serait un véritable bond en arrière. Ça donnerait raison à l'extrême droite, à ses insultes et à ses calomnies. Il faut trouver des solutions.
C'est tellement méprisable de s'en prendre à lui et à sa femme. Nous, on t'aime, Pedro.
Mais face à un avenir politique incertain, cette ferveur est loin d'être partagée par tous, appelle Juan José Dorado, journaliste correspondant espagnol.
Une grosse partie pense qu'il y a de la victimisation. Les Espagnols se disent aujourd'hui pourquoi avoir mis un pays en pause pendant 5 jours. Sanchez essaye de dévier l'attention sur le fait que la justice a ouvert une enquête sur sa femme.
Alors démission ou pas, Pedro Sanchez devrait rendre publique sa décision dès demain.
En Italie, cette fois, le pape François se rend à Venise aujourd'hui pour la première fois depuis le début de son pontificat. Une visite très attendue car le pape se fait rare. C'est son premier déplacement depuis 7 mois à cause de son état de santé fragile. Avant de célébrer la messe ce matin à 11h sur la mythique place Saint-Marc, plusieurs rencontres sont prévues dans la ville tout au long de la matinée. Julia, habitante de Venise, sera dans la rue pour tenter de l'apercevoir.
C'est un moment historique pour les Vénitiens. C'est la première fois que le pape vient ici. Je suis très heureuse d'être là, de participer à cet événement. Nous sommes déjà allés à Rome, au Vatican, mais c'est autre chose de l'accueillir chez nous, à Venise. Je ne suis pas inquiète pour sa santé, nous sommes impatients et contents de le voir et on espère qu'il ira bien.
Et on passe au sport. Paris n'est toujours pas champion de France.
Le PSG devait battre Le Havre hier pour gagner un 12e titre national, mais la soirée s'est finie sur un match nul, 3-3. Les Parisiennes, par contre, vont essayer de s'offrir une finale européenne cet après-midi. Elles affrontent les Lyonnaises à 16h, contre qui elles avaient perdu lors du match aller, mais elles comptent bien renverser la situation, Léna Marjac.
C'est une mission loin d'être impossible pour les Parisiennes. En tout cas, leur coach Jocelyn Prêcheur y croit.
On est conscient de la difficulté de la tâche, mais je n'ai absolument aucun doute sur notre capacité à renverser cette situation. On a toujours su repartir de l'avant. C'est même une force, je trouve, qu'on a développée cette saison.
Et pour cela, les joueuses pourront compter sur leur public. 28 000 supporters sont espérés. Un réel avantage d'être à domicile pour Grace Gueyoro, capitaine du PSG.
On le sait, quand on est au Parc des Princes, on a cette force supplémentaire, justement grâce au public, grâce aux supporters. Et c'est le 12e homme. Ça fait du bien, surtout quand on est dans un moment peut-être un peu plus difficile.
Elles ont en tête la finale de la Ligue des Champions, qui serait la 3e de leur histoire.
On a montré que le PSG était une grosse équipe, qui était capable de marquer, de jouer. On le sait, on a envie de le faire. On a énormément d'excitation, de détermination.
Les filles du Paris Saint-Germain veulent montrer la voie à l'équipe masculine, elle aussi qualifiée pour les demi-finales. Le PSG pourrait voir pour la première fois de son histoire, ces deux formations disputaient la finale de la Ligue des Champions.
Et puis à 21h, chez les hommes, l'OM affronte Lens avec dans ses rangs un joueur qui a souvent divisé côté marseillais. Il s'agit de Leonardo Balerdi. Mais aujourd'hui, aux yeux des supporters, il est devenu un titulaire incontournable, Florent Germain.
Oui, Leonardo Balerdi a mis tout le monde d'accord. Le défenseur argentin de l'OM a souvent été critiqué dans les médias et parfois sifflé par les supporters. Les amoureux de l'OM reconnaissent ne pas avoir été tendre avec lui.
Je l'assume, je l'ai sifflé, il a fait des erreurs. Ouais, il nous a mis dedans. Depuis le penalty qu'il avait loupé face à Annecy, je le détestais. Là, il a mis le penalty jeudi, c'est bon, moi je l'aime bien.
On retourne un peu la veste alors ?
Ouais, de ouf, de ouf. Avant, c'était un peu le gars qui faisait sa bourde par match, qui coûtait un but cette saison. Et au niveau, hein, ça fait 5-6 coachs qu'on a différents. Ils le mettent tous titulaires, c'est pas pour rien.
La preuve avec le coach actuel de l'OM, Jean-Louis Gasset, sous le charme de Balerdi.
Il a tout, dans l'état d'esprit, dans le don de soi. Il a tout ce qu'il faut, ça va devenir un très grand défenseur.
Son coéquipier en charnière centrale, Samuel Gigot, a vu l'Argentin grandir et progresser.
Je pense qu'il a vraiment passé un cap cette année. Je suis très fier et très content pour lui parce qu'il le mérite. Il s'est accroché mentalement, il est très très fort.
Léo Balerdi est suivi par de nombreux clubs européens, notamment espagnols ou italiens. Mais le président Pablo Longoria ne désespère pas de le garder cet été et même de lui prolonger son contrat avec l'OM.
Et puis Solène, on n'oublie pas les courses. Quintet Plus à Paris-Longchamp, 15h15.
Oui, le Quintet Plus qui se déroule sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, donc à 15h15. Voici le pronostic de Frédéric Kita de la Dream Team des courses RMC. Son favori est le numéro 2, Kendley. Son outsider est le numéro 9, Royal Shake. La course du Quintet est à suivre en direct sur RMC Découverte.
Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Bonjour Jean-Christophe Drouet.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Bon, bientôt là, hein, il vous reste 20 petites minutes pour vous échauffer, les GG du sport arrivent.
Bon, une bonne sieste là. Hein,
ouais, bon, ouais, nickel, bah 20
puis
minutes.
On reviendra à partir de 9h30. Les grandes gueules du sport avec ce matin, Simon Dutin, Marion Bartoli, Julien Beneteau, Cyril Linette. Nous allons revenir sur ce match nul, 3 partout du Paris Saint-Germain, le PSG. Pas encore champion, mais quasi champion. Ce titre sera-t-il différent des autres? Ce sera notre question. Et puis, à un mois de Roland-Garros, nous parlerons de Raphaël Nadal. Roland-Garros, le tournoi parisien, a-t-il encore besoin de Raphaël Nadal? Sans oublier l'Olympique de Marseille, est-il obligé de changer d'entraîneur? Voilà, beaucoup de questions et beaucoup de réponses dans cette émission à 9h30.
Il va falloir être en forme. Reposez-vous bien d'ici là, Jean-Christophe. À tout à l'heure. Avant ça, Julien nous appelle au 32-16, vous savez que vous êtes prioritaire. Bonjour Julien.
Bonjour.
Bonjour à tous.
Vous nous appelez de l'Hérault, Julien. Vous écoutiez la ministre des Familles, Sarah El Haïry, à propos de la gestation pour autrui. Elle ne l'a pas dit clairement, mais on l'a tous compris. Elle souhaite voir un jour cette GPA discutée et pourquoi pas inscrite dans la loi française. Ce serait une avancée, un progrès pour vous?
Oui, pour moi c'est la continuité. C'est dans la continuité de l'évolution de l'histoire, quoi. Enfin, moi, ça me choque pas. C'est comme ça. Après, c'est comme tous les sujets climat, comme à l'époque l'avortement, le mariage pour les homosexuels. Puis au final, c'est rentré dans les mœurs et on s'y fait, quoi.
C'est tout de même un peu plus compliqué au niveau éthique, même au niveau philosophique, que le mariage pour tous ou la PMA, oui. Julien.
Oui, non, c'est un peu plus compliqué, certes. Mais, alors, pour moi, personnellement, moi qui étais adopté, pour moi, c'est une adoption programmée, quoi. Et moi, j'ai été adopté à 14 mois, et voilà, c'est une adoption programmée.
Et vous souhaiteriez voir ce débat, en tout cas, naître en France, comme nous l'a indiqué Sarah El Haïry?
Oui, au moins qu'on ait une discussion, mais bon, le problème, c'est qu'on est gangréné par les extrêmes sur chaque sujet, que ce soit de droite comme de gauche, et qu'on ne peut jamais aborder les vrais sujets de fond et en discuter sereinement.
Bah écoutez, on a tenté de le faire ce matin sur RMC, oui, de manière sereine, oui, de manière respectueuse et de manière surtout légale, parce que vous savez qu'il y a une seule limite aux propos sur RMC, c'est la loi. Merci Julien de votre appel.
De rien.
Et merci d'écouter RMC, à bientôt. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h30 avant vos GG. Qui arrive?
Bah Péricot.
Bah il est là, bonjour Péricot. Le sandwich ce matin?
Deux tranches de pain et ensuite le miracle que l'on met à l'intérieur.
Ah, effectivement, c'est toujours un petit plaisir. L'art de faire un bon sandwich, on va voir ça avec vous, Perico Légas. Le beurre et l'argent du beurre, c'est dans 2 minutes.
RMC, la matinale week-end.
Le beurre et l'argent du beurre.
Bonjour Perico Légas.
Bonjour Mathieu, bonjour Anaïs.
Bonjour Perico, bonjour Mathieu.
Bonjour Anaïs. Aujourd'hui, le sandwich. Pourquoi le sandwich, Perico? Parce que ça fait partie des snacks préférés des Français, même si c'est de plus en plus détrôné. Hein. Le classique jambon-beurre est maintenant loin derrière le burger, la pizza, le tacos.
si tant est que le sandwich jambon beurre fut la version originale de ce. Alors est-ce que c'est un plat, est-ce que c'est un mets quand il est bien fait, c'est un plat. Je vous ai proposé qu'on en parle parce que c'est quand même, j'allais dire, l'aliment le plus commun, le plus répandu sur cette planète. Le mot sandwich en termes d'aliment est le plus connu. Je pense qu'il est resté devant la pizza. Et je me souviens en 2009, j'étais apparu au journal aux 20h de France 2 avec Élise Lucet parce que le Paris Beurre était arrivé en tête des sandwichs préférés des Français avec 1,4 milliard par an consommé.
2009, Péricot.
2009, donc il est toujours là. Et le sandwich, ça signifie tellement de choses à la fois. Et comme justement c'est un aliment simple, basique, populaire, évidemment il a été récupéré par l'industrie agroalimentaire. Et nous faisions l'autre jour le sujet sur l'autoroute, j'ai revérifié, il y a la pléthore de collections de sandwichs sous toutes les formes, tous les aspects, triangulaires, ronds, anciens, nouveaux, modernes, parfumés. Et puis il y a le vrai sandwich que nous avons eu dans les bistrots. Et puis il y a surtout l'encore plus authentique sandwich, celui que nous préparons nous-mêmes à la maison. Et c'est là où on peut atteindre quelquefois des sommets, plus toutes les variantes qui va du club sandwich, bien entendu le croque-monsieur, le pain bagnat, et puis les sandwichs suédois, enfin voilà. Donc il y a une telle diversité, je voulais faire un petit point avec vous et dire que ça reste quelque chose de merveilleux quand on sait le préparer ou qu'on tombe sur un bon spécialiste du sandwich.
Et de toute façon, il fallait le faire avec vous, Péricot, puisqu'on est de plus en plus nombreux à aller dans les restaurations rapides, quelles qu'elles soient. Chiffre d'affaires qui a augmenté de 11% entre 2022 et 2024, donc au sortir de la crise Covid. Juste sandwich, d'où ça vient, Anaïs Castagna? D'où vient ce mot de sandwich?
Alors, il tiendrait son origine d'un lord anglais, Sir John Montagu, comte de Sandwich, qui était accro aux cartes au XVIIIe siècle. Il passait des heures à jouer et ne voulait pas quitter sa table de jeu. Alors, pour aller se restaurer, il aurait donc demandé à son cuisinier de lui préparer un repas simple et pouvant être consommé sur place, sans assiette ni couvert. Son cuisinier lui préparera un encas avec deux tranches de pain, de la viande froide et du fromage, encas qui popularisa le nom de Sandwich.
Voilà.
Conte de sandwich.
Quatrième conte de sandwich de John Montagu. Donc, c'est le symptôme de quoi? Le sandwich est en fait le précurseur du fast-food. C'est quoi? C'est la façon de s'alimenter tout en continuant une activité. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit laborieuse, qu'elle soit une distraction. Aujourd'hui, devant son écran, devant son livre. Lui, c'était devant sa table de jeu. Et j'ai connu, moi, peut-être vous-même, les ouvriers que je voyais quand j'allais chez les parents de mes amis. Au moment de partir au travail, on ouvrait une demi-baguette en deux et là, voilà. On mettait un beefsteak à l'intérieur, carrément un beefsteak. On refermait ça, c'était un sandwich. Et
bon,
chaque
casse-dalle.
Pays. Le casse-dalle, donc c'est le principe de deux tranches de pain. Alors ça peut être le pain de mie, ça peut être un pain de campagne, ça peut être une baguette, on fait ce qu'on veut. Et quelque part, les kebabs, c'est aussi quelque part une forme de sandwich également. C'est mettre entre deux tranches de quelque chose un aliment. Et ça a été pendant des siècles et dans toutes les civilisations du monde, le concept du sandwich a été maintenu.
Ce n'est pas forcément une mauvaise alimentation.
Alors, tout dépend du produit que vous utilisez. Aujourd'hui, dans l'industrie, évidemment, pour qu'il soit séduisant, il y a des gras, il y a des sucres, il y a des arômes artificiels et des conservateurs. Il faut que ça reste dans son emballage plastique sur l'autoroute et pourtant, ce sont des normes très, très, très contrôlées. Mais c'est quand même une production, j'allais dire, artificielle. Alors que le sandwich que l'on a... Alors, vous avez des sandwichs dans Paris, des sandwicheries, je vais citer l'INAS par d'autres, mais vous avez quelques spécialistes, je ne vais pas tous les citer, avec le vrai Paris beurre, avec une baguette exceptionnel, un vrai beurre fermier de campagne et un bon jambon blanc vraiment de porc. Et là, vous avez un grand instant. Et je me souviens que l'autre jour, j'étais dans un bistrot et j'entends un Paris beurre sans beurre et sans jambon.
Alors,
extraordinaire. Et je demande au garçon, il me dit oui, c'est une cliente, elle est spécialiste, alors elle est un peu végétarienne, elle veut pas grossir. Donc on lui fait une baguette avec juste les rondelles de sauce de cornichon à l'intérieur du Paris beurre. Donc le Paris beurre sans beurre et sans jambon, j'ai trouvé la formule, ça aurait pu être
un pain au cornichon, quoi.
Ça aurait pu être un titre d'un roman de Gérard de Villiers. Et donc, voilà, la tradition du sandwich du Paris beurre français qui est classique, dans lequel on peut mettre. Alors, ensuite, vous avez le sandwich à la rillette, le sandwich au saucisson. Le tout est d'avoir, la base, c'est quand même le bon pain. Voilà. À partir du moment où on a une matière première correcte, que l'on met un contenant qui lui aussi est de bonne provenance, avec un bon beurre, et comme c'est le plat que l'on peut faire préparer à tout instant, c'est vrai que c'est le casse-croûte idéal, on peut donner ça aux enfants. Et je voudrais qu'on revienne au sandwich traditionnel, celui le familial, le classique.
Mais bien sûr, moi, voilà. Mon préféré, par exemple, c'est le roast beef froid d'il y a 2-3 jours avec un peu de moutarde sur le pain. Pourquoi? Parce que c'est celui que ma grand-mère me préparait.
Ça, c'est une pure merveille.
Notre sandwich préparé, c'est celui de l'enfance.
C'est une pure merveille.
Préféré.
Alors, vous avez les variantes. Quand vous êtes en Provence, sur la Côte d'Azur, vous avez le pain bagnat, un vrai pain bagnat, pas celui que l'on vend comme ça un petit peu dans les zones touristiques, fait fait avec deux pains ronds, la bonne huile d'olive. Alors ça peut être. En fait, c'est une. Le pain bagnat, c'est une petite salade niçoise entre deux tranches de pain. Mais si c'est fait de façon artisanale avec des produits d'origine et de saison, vous avez une pure merveille. Un grand croque-monsieur avec du vrai pain de mie, un fromage formidable et un jambon juste toasté, et puis un petit œuf dessus pour faire le croque-madame. On est dans des très beaux instants de cuisine et de gastronomie. On se régale et pour pas cher, puisqu'aujourd'hui la priorité, c'est quand même de rester sur les tarifications. Je dis qu'avec un bon sandwich, on peut pour pas cher se faire plaisir à l'heure du déjeuner ou à l'heure du dîner.
Mais vous allez voir que les Français sont prêts à mettre de plus en plus cher dans leur sandwich.
RMC, le beurre et l'argent du beurre.
13,25€ en moyenne. Alors là, c'est pour une pizza. On parle de tout, les snacks. 10,50€ pour un burger, 9,20€ pour un kebab. Voilà ce que les Français sont prêts à dépenser. Et jusqu'à 7€ pour un sandwich en boulangerie. C'est quand même cher, 7€ pour un sandwich, Pierre.
Oui, parce qu'en fait, le sandwich étant devenu, j'allais dire, un aliment de référence, il y a une exigence qualitative du consommateur qui veut s'assurer que les produits sont de qualité. Vous avez des artisans qui mettent en valeur cet effort qualitatif sur la production qu'ils proposent à la clientèle. Et aujourd'hui, effectivement, c'est pas le prix du pain, mais si on a un bon beurre, ensuite le contenu, la salaison, la charcuterie, la qualité de la viande, effectivement.
Ça vaut ce prix-là. Même si le pain est excellent, que le beurre est fermier, que le jambon est artisanal, ça vaut 7€.
J'allais vous dire, Mathieu, il faut que ça le justifie. Alors attention, maintenant qu'il y a ces prix-là, vous avez des sandwichs un peu fantaisie, au prix de revient très modeste, qui vont être vendus très cher, parce qu'il y a une mise en scène, un peu de couleur, des parfums, vous savez, c'est un petit peu de marketing dans l'industrie du sandwich. Donc là, ça peut être un peu excessif. Mais si la matière première est belle, et vous avez en France, dans les villes, des charcutiers d'ailleurs qui vous font le sandwich, souvent c'est très agréable d'aller chercher son pain, c'est le boulanger, vous l'amenez chez l'artisan, le boucher, le charcutier de quartier, est-ce que vous pouvez me faire un sandwich? Ils adorent ça, ils vous coupent le pain en deux, ils l'ouvrent, voilà, et ils le remplissent eux-mêmes avec ce qu'ils ont de bien, et c'est parfait. Donc un artisan qui se donne du mal, et vous avez des sandwicheries spécialisées avec un sandwich de qualité, c'est vrai que 7€, on s'est dit que pour un sandwich, c'est cher. Mais si la matière première est noble, ça le justifie.
Anaïs, vous en avez trouvé d'ailleurs des sandwicheries un peu de luxe, Saint-Maur,
ah oui,
à Paris.
Bah dans mon quartier,
sandwichette.
Ouais. Oui, qui vend notamment des sandwichs au bœuf bourguignon, sandwichs aux alentours de 13€. Il y a même des sandwichs plus chers, sandwichs à 15€ au Ritz. Et là-bas, le chef pâtissier a revisité
le classique fromage jambon,
avec une pâte feuilletée. C'est absolument magnifique. Ça devient des vrais plats en fait.
Hein. Tout à fait. Alors l'emblème du sandwich.
Il y a une montée en gamme aussi.
Bien sûr, et l'emblème du sandwich gastronomique, c'est le célèbre Club Sandwich, voilà, qui est trois tranches de pain de mie juste toastées.
Toujours à la carte des palaces.
Toujours à la carte. Alors, on ne les trouve plus souvent aujourd'hui que dans les hôtels. Ça revient un petit peu. Vous les avez aussi en sous forme industrielle froide, mais c'est moins agréable. Voilà, le vrai Club Sandwich, donc ce sont deux tranches de pain de mie coupées en deux. Vous avez donc deux triangles face à face avec une pique qui le tient puisqu'il y a quand même trois couches, un peu difficile à manger. Et c'est là où le cuisinier ou l'artisan qui vous le prépare s'y met vraiment. Alors, vous pouvez avoir des œufs, des tomates, tout ce que l'on peut, du jambon, du bacon et un peu de poulet. C'est presque une salade César, j'aimerais dire, transformée en sandwich. Si on a des produits de qualité. Moi, je vous dis que lorsque j'ai un club sandwich à la carte, ou lorsqu'il m'arrive d'aller dans un hôtel, si un room service, je me jette sur le club sandwich. L'autre jour, c'était à 2h du matin, j'ai craqué, et je me suis fait monter un club sandwich à 2h du matin dans ma chambre d'hôtel.
Je sais pourquoi, voilà. Parce qu'on sait que c'est gourmand.
C'est gourmand.
Voilà, ça calme pour le reste de la nuit.
Ça peut se manger partout à toute heure, et quand c'est bien fait, c'est un très bel instant de gourmandise.
Je viens de retrouver la composition du sandwich bourguignon dont vous nous parliez. Anaïs, pain de mie, comté, béchamel, paleron, carotte, oignon et vin rouge. Ouais. On peut mettre tout ça dans un sandwich.
Bien sûr. Et aujourd'hui, je vois que dans les régions, ils jouent la carte régionale, même si c'est des recettes qui n'existent pas. Aujourd'hui, la tradition, c'est de prendre du pain et de mettre le produit local de la tradition, que ce soit Bourgogne, qu'on soit en Provence. Vous savez, l'autre jour en Bretagne, j'ai vu quelqu'un qui faisait des sandwichs avec les poissons en conserve, au thon ou à la sardine ou à l'anchois. Et puis vous avez le fameux sketch du sandwich en Corse. Il y a le sandwich pour touristes et le sandwich pour les gens de l'île. Il y a juste que le prix qui change quand ils vivent là. Et je vais prendre finalement le touriste. Non, on n'a plus que le Corse. Voilà, c'est pour ça. Et en Corse, vous avez des sandwichs sublimes parce qu'ils ont des salaisons merveilleuses quand vous avez du. Voilà.
Et ils savent garder le sens de l'accueil.
Bien sûr.
Ne nous fâchons avec personne, surtout pas avec les Corses.
Je suis un fanatique de la Corse. C'est un des endroits du monde où l'on mange le mieux.
Bon, comme ça c'est dit. Vous avez parlé des sandwichs qu'on trouve sur autoroute industrielle. Juste dernière chose, pourquoi vous avez une dent contre le sandwich SNCF de l'époque ?
Alors, avec un tempo, avec un bémol. Moi, je l'ai connu dans les années 60. À l'époque, j'allais vous dire qu'il n'y avait presque pas de malbouffe, elle n'existe pas. Donc c'était du vrai pain, du vrai jambon et du vrai beurre dans un petit torchon, un petit papier. Et quand je prenais le train, je achetais mon sandwich SNCF qui était vendu par le marchand ambulant qui était en blanc, gling, gling, il passait avec sa cloche. Et ensuite, il a évolué. Et là, on a eu, à un certain temps, le sandwich avec, vous savez, il y a eu une période de mauvais pain avec le pain mou, un jambon douteux, un beurre assez maigre. Et c'était le symbole. C'est la première malouf, c'était jambon SNCF. C'était la caricature du sandwich, on ne voulait pas. Pourtant, il y avait eu une meilleure version. Et aujourd'hui, dans les trains, je regrette que, voilà, on n'ait pas un service à bord des trains ou avec un vrai sandwich. On a évidemment des produits industriels. Mais si on avait, dans le wagon restaurant, le wagon bar, une baguette avec du beurre, du pain et du jambon, je pense qu'ils auraient beaucoup de succès.
Faut que ça croque.
Ah, il faut que ça croque.
Le casse-croûte, il faut pouvoir casser la croûte.
Très important, hein, bien sûr. Et en plus, on a une telle diversité de pains en France qu'on peut faire même avec des pains complets, avec des pains aux graines. Il y avait une municipalité. Je crois qu'on, le record, on est à 200 000 variétés dans le monde qu'on a pu répertorier. C'est incalculable. Mais on est à près de 200 000 types de sandwichs différents que l'être humain a pu inventer depuis qu'on fait du sandwich. Vous voyez, donc, on est quand même dans l'univers de la diversité.
Merci beaucoup, Perico Legas. Incroyable. Le beurre et l'argent du beurre tous les samedis, tous les dimanches. Et dès demain lundi, vous revenez sur RMC dans SL Midi.
Absolument, pour décrypter l'actualité.
Entre midi et 15h sur RMC, bien sûr.
Et le beurre et l'argent du beurre est à retrouver en podcast sur l'appli RMC.
A tout de suite. Merci beaucoup, Peggy.
On se retrouve la semaine prochaine.
Bah oui, prenez soin de vous d'ici là.
Bah vous aussi.
À bientôt.
Avec un petit brin de muguet ?
Ah, peut-être. Vous verrez.
Ok.
C'est mercredi, on a le temps d'en reparler.
Ouais.
Voilà. D'abord, c'est le sport. Les GG sont là. Bonjour Jean-Christophe Drouet.
Ça va, les amabilités ?
Oui, ça va. Nous, on aime bien tout ça. On se dit bonjour.
Beaucoup de formules de politesse dans la matinale. Mais les grandes gueules du sport, ça n'a rien à voir avec tout ça.
Il a dit qu'il ne m'offrirait pas de muguet. Pour ça. Allez,
déçu.
Je m'en vais.
Déçu.
Très bien. Bah, bon dimanche à vous.
Allez,
alors.
Salut.
Et bon muguet. Enfin, la semaine prochaine.